Centre africain d'études supérieures en gestion, le CESAG, ou l'émergence de talents au service de l'Afrique.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Sandrine Mercier.
Bonjour les voisins, les voisines, bienvenue. Et avant l'édition spéciale de 13h, donc heure française, sur ces attentats, et bien aujourd'hui, vendredi, c'est une question d'éducation qui vous est proposée avec des lycéens sans papier. Une dépêche est tombée, c'était le 26 juin dernier. Laïla et Medji, deux lycéennes, sont interdites de poursuivre leurs études dans le sud-ouest de la France car elles sont sans papier. Mais la scolarisation en France est un droit pour tous et les enfants jusqu'à 16 ans, au moins qu'ils soient étrangers ou non, avec ou sans papier, eh bien, ils doivent aller à l'école. Alors, quel avenir pour les collégiens, les lycéens sans papier qui craignent des expulsions? Quels sont les problèmes qu'ils doivent affronter? Et pourquoi réussir est si important pour eux ici en France? Le réseau Éducation sans frontières se bat chaque jour pour la régularisation de tous ces jeunes scolarisés et de leurs familles. Et nous allons leur donner la parole aujourd'hui avec Marianne Cabaret-Rossi. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes professeure d'histoire et géographie à Paris, également militante pour le réseau Éducation sans frontières. Vous êtes militante active depuis combien de temps?
10 ans, une dizaine d'années, depuis à peu près la circulaire de 2006 de Nicolas Sarkozy sur les familles.
Alors vous allez nous parler de vos actions pour aider ces jeunes sans papier. Et il y a le site internet que je recommande, éducation sans frontières avec un S à la fin, .org, pour suivre effectivement toutes vos mobilisations. Abdoulaye Thiam, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes un jeune Sénégalais, lycéen, sans papier, et tu fais partie donc du réseau Éducation sans frontières. Alors, tu étais en terminale cette année,
ouais.
Tu as passé ton bac,
oui.
Et tu as eu le résultat du bac.
J'ai eu le bac avec mention.
Une mention
laquelle... Mention bien.
Bravo, félicitations. Et tu as passé quel bac?
Électronique, système électronique et numérique. Mmh.
Et ouais. Pour la rentrée prochaine, du coup, qu'est-ce qui se dessine pour toi?
Pour la rentrée, je vais préparer électrotechnique, un BTS en électrotechnique.
Ouais. Donc ça, c'est
en
ce
alternance.
Qui...
Ouais.
En alternance. En donc alternance, tu cherches un employeur. Tu nous parleras effectivement des difficultés de trouver un employeur quand on n'a pas de papier, et de ton quotidien aussi au lycée. Ouais. Et également avec tout, Mahamadou Tounkara, bonjour.
Bonjour.
Alors toi, tu es parrain au sein du réseau. Tu viens aider ces jeunes désemparés parce que tu es aussi passé par cette galère,
ouais,
d'être lycéen sans papier.
Je suis aussi passé par là, et comme depuis 2011, moi j'ai connu le réseau, et depuis ça j'ai participé avec tous les jeunes qui étaient en galère en ce moment à participer à des groupes de théâtre qui ont été créés par le réseau, dont Marianne elle tient beaucoup à ce théâtre, elle essaye de nous rassembler tout le temps.
Et maintenant, tu as donc un travail. Tu travaillais ce matin.
Je viens du boulot. Voilà, c'est mon air de pause que je vous ai donné. Voilà.
Ben, merci beaucoup. Et donc, tu travailles, tu es donc technicien dans la maintenance et dans l'énergie.
Ouais.
C'est donc ton travail. Tu nous raconteras effectivement comment tu es arrivé jusque-là. Ouais. À la fin de l'émission, nous aurons 5 minutes avant la fin, la chronique de Sinatou Sake sur les bourses d'études en Afrique. Alors, une école, un toit, des papiers, égalité des droits. C'était votre campagne 2016. Ça a eu lieu jusqu'au mois de juin avec le réseau Éducation sans frontières. Vous avez réussi à alerter l'opinion justement sur ce problème des lycéens sans papiers en France, Marianne Cabaret-Rossi.
Les alerter, c'est ce qu'on fait à peu près depuis une dizaine d'années. Mais ce slogan-là, un lycée, une école, un lycée, un toit, une école.
Des papiers.
Et des papiers, oui, évidemment. En tout cas, depuis quelques temps, on se trouve face en fait à une situation où à Paris, il y a beaucoup de lycéens donc sans papier qui se trouvaient à la rue. Et voilà, ça fait à peu près 2 ans qu'on se bat, et à la fois qu'on se bat, mais aussi qu'on travaille avec la mairie de Paris, qui a mis au point avec la préfecture un dispositif d'hébergement en fait de ces jeunes donc qui étaient lycéens, qui étaient scolarisés, qui n'avaient pas de papier, qui n'étaient pas pris en charge par l'ASE ou avaient été refusés, et qui se trouvaient donc sans logement. Alors pour qu'ils puissent donc suivre normalement leurs études au lycée. Quoi.
Donc vous suivez ces parcours individuels de jeunes au plus près, effectivement, pour les aider à se loger, à avoir des papiers, c'est un peu la mission. Alors on a beaucoup de questions qui sont sur Facebook. Il y a par exemple Thierno de Conakry qui nous demande justement quelles sont les dispositions prises par l'État français pour permettre un accès à l'éducation sans papiers. C'est Bachir aussi de Khartoum qui réagit, qui dit mais est-ce que l'État français n'a pas l'intention de trouver une solution pour résoudre ce problème. Effectivement, ça va dans ce droit. Moussa aussi de Dakar qui nous dit l'enfant a droit à une éducation partout où il se trouve. Il faudrait que les papiers soient faits obligatoirement pour respect de ses droits. Enfin, voilà un peu les échos qui nous arrivent de ces jeunes africains également. Il faut savoir qu'en France, en fait, le problème qui arrive, en fait, c'est qu'à 18 ans, tout bascule. Il y a le couperet de la majorité, Marianne. Expliquez-nous ça avant de donner la parole aux jeunes.
C'est-à-dire que quand on est jeune, donc non accompagné, mineur non accompagné, qu'on arrive en France, il faut trouver un établissement scolaire. Alors évidemment, jusqu'à 16 ans, la scolarité étant obligatoire, ça, c'est possible. On peut encore se scolariser donc après 16 ans, mais ça devient, il me semble, un peu plus difficile qu'avant. Et voilà, il y a deux choses. En dessous de l'âge de 18 ans, donc on n'est pas considéré comme un sans-papier. C'est à partir justement de la majorité donc on devient quelqu'un sans titre de séjour. Et le problème qui se pose pour tous ces jeunes qui ne sont pas arrivés avant l'âge de 13 ans, qui n'ont pas été pris en charge par l'ASE, voilà, la loi elle n'est pas faite pour tous ces jeunes-là. Et effectivement, ils se trouvent sans titre de séjour. Et qu'est-ce que ça veut dire voilà, se trouver sans titre de séjour? C'est ne pas pouvoir travailler, ne pas pouvoir poursuivre des études. Parce qu'évidemment, pour poursuivre des études, il faut un minimum un titre étudiant. Et le titre étudiant, il est donné évidemment quand on part d'un pays et qu'on va faire des études en France. Donc c'est difficile, même ici, d'obtenir pour ces jeunes un titre étudiant. Donc le couperet des 18, c'est l'âge de tous les possibles. Et pour ces jeunes qui ne sont pas non plus, je dirais, des milliers, la vie s'arrête.
Alors Abdoulaye, à quel âge tu es arrivé en France?
Moi, je suis arrivé en France à l'âge de 18 ans.
Ouais. Donc, c'était déjà après ce fameux couperet, alors.
Oui.
Ouais. Et tu as quel âge aujourd'hui?
Aujourd'hui, j'ai 20 ans.
D'accord. Donc, ouais. Tu es allé à l'école, tu as passé donc ton bac, tu étais à l'école pendant ces années-là.
Ouais, je suis allé à l'école, mais ce n'était pas facile d'aller à l'école. Parce qu'avant d'être ici en France, j'étais en Italie, où j'ai fait mes deux dernières années de collège et les années de lycée. Après, je me suis dit, je viens en France pour continuer les études. Pour des motifs personnels, motifs familial, mais aussi parce que aussi, je pensais que comme la France, comme dans mon pays, on parle français, j'ai besoin d'être en France pour apprendre, pour peut-être un jour pouvoir servir quelque chose à mon pays.
Oui, donc tu viens du Sénégal.
Oui, je viens du Sénégal. Ouais. Ouais. Quand je suis arrivé, ce n'était pas facile.
Tu es arrivé tout seul?
Je suis arrivé tout seul. Et quand je suis arrivé, j'ai eu de la chance de rencontrer un Sénégalais qui m'a hébergé. Et mon seul but, c'était d'aller à l'école. D'aller à l'école, c'était la seule chose. Moi, je n'avais pas de soucis où je vais dormir ou qu'est-ce que je vais manger. Mon souci, c'était d'aller à l'école. C'était juste d'aller à l'école.
C'était ce qui t'avait motivé pour arriver jusqu'ici?
C'était la seule chose, ouais. Et pour construire quelque chose. Après, ce n'était pas facile parce que je ne connaissais pas très bien la France, ni Paris. Je ne savais pas comment faire pour s'inscrire ou pour aller à l'école. Mais ça n'empêchait pas que je demandais. J'ai passé des mois. Des fois, j'arrivais au rectorat de Paris en 20e. J'arrivais à 4h du matin pour faire la file, pour pouvoir avoir des informations ou s'inscrire. Et parce qu'il y avait aussi beaucoup de monde. Chaque jour, quand je viens, il y avait du monde. J'ai réussi un jour d'entrer. Ils m'ont dit, c'est pas possible, tu peux pas le faire parce que tu as 18 ans. T'es plus obligatoire d'aller à l'école. Mais j'ai pas laissé, j'ai continué.
J'ai pas baissé les bras,
j'ai continué. Et là, j'ai rencontré une personne qui est le directeur des CIO du 1er, 2e et 3e arrondissement. J'ai parlé avec lui, il m'a fait passer un examen, j'ai passé cet examen-là. Après, j'ai dit, moi, je vais choisir de refaire encore les deux ans de lycée parce que j'avais un peu de problèmes de français, des critères. Et du coup, j'ai refait encore deux ans de lycée en système électronique et numérique, option audiovisuelle. où mes professeurs étaient très contents, le proviseur aussi était très content, qui m'a toujours accompagné aussi. Et j'ai passé mes 2 ans vraiment avec des belles notes, avec des gens qui m'accompagnent, qui m'assistent, qui sont très fiers de moi.
Bah, tu peux être fier de toi. Tu nous as dit que tu as eu ton bac avec mention bien quand même, donc ce n'est pas donné à tout
le
monde.
Ah non, je ne suis pas très fier parce que j'attendais plus. Je voulais plus, mais bon.
Il voulait un très bien, c'est ça. Il voulait un très bien.
Ouais.
Ah, mais non, mais après, le bien, franchement, c'est déjà impeccable. Ouais. Surtout avec tout ce que tu as traversé, parce que ces 2 années que tu as passées en France, ce n'est pas comme n'importe quel camarade. Je veux dire, raconte-nous un peu le quotidien, donc comment ça se passe quand on n'a pas de papier et qu'on va à l'école.
Et c'est très, très, très difficile. C'est très difficile ici en France, surtout quand on est seul. Quand on n'est pas accompagné. Et moi, quand je suis arrivé, je n'avais pas les documents, mais quand même, je ne me suis pas resté avec les bras fermés. J'ai cherché des informations, demandé gauche à droite. Et là, on m'a dit, comme en Italie, ils avaient un séjour permanent, c'est-à-dire indéterminé, on m'a dit qu'il faut aller à la préfecture avant d'avoir 3 mois pour déposer un séjour d'étudiant.
Mais est-ce que tu avais un risque d'être expulsé?
Moi, je ne pensais pas à ça. Je n'avais pas de soucis, de rien du tout. Moi, tout ce que je voyais, c'est aller à l'école, faire mes études. Je n'avais pas de soucis, on va m'expulser ou pas. Peut-être que ça pourrait arriver, mais ce n'était pas quelque chose qui me faisait peur. Pour moi, j'ai quelque chose, c'est ça que je veux et c'est ça que je vais avoir après
le
reste.
Donc, tu ne partais pas avec la peur au ventre à l'école le matin?
Non. Même à la préfecture, j'allais tout seul. Je suis allé 3 fois, on me disait, tu ne peux pas l'avoir, tu ne peux pas avoir un séjour, il faut y aller. Mais quand même, j'ai continué, j'ai forcé. Et il est arrivé un jour où j'ai eu un séjour d'étudiant.
Donc maintenant, tu as ta carte d'étudiant.
Oui, maintenant, j'ai mon carte d'étudiant que j'ai eu grâce à ça. Parce que si la première fois, on m'avait dit « tu peux pas », j'ai laissé, peut-être que je n'aurais pas à l'avoir. Mais j'ai continué, j'ai écrit que je peux l'avoir, que je peux avoir ce que je cherche. C'est ces motivations qui m'accompagnent jusqu'à maintenant. Mais je dis, c'est pas facile d'être jeune, vivre ici en France. Et surtout quand on est seul, c'est très, très, très difficile parce que c'est une grande bataille à faire. Déjà à réussir, déjà à le fait que ce qu'on ne nous permet pas et ce qu'on veut encore nous être, ce qu'on veut arriver. Déjà, on a un autre rêve à réaliser et des combats aussi quotidiens qu'on doit encore réaliser, c'est-à-dire les papiers. D'autres choses, même les logements, etc.
Alors, les galères de la régularisation, on va continuer d'en parler après Waiting de Clinton Ferron. Sometimes I'm strong, sometimes I'm weak, and I'm not mad about it. What I give is what I see, and in the end, what do I learn? I learn to trust myself and pay attention to my intuition. Who said if you're out of sight, you're out of mind? Tell us, who said it? I wait and wait from the morning, straight and through till the evening. I stayed up late till the cock of dawn, it's another day. I say, I'm gonna keep my calm, that's enough till another day. And I'm gonna rest to face another day. It's enough and I'm gonna rest till the morning. Oh, na 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 na. Oh. Oh, yes, I wait from the morning, straight on through to the evening. Day by day, it's the same thing. If I had wings, I would fly to your sweet, sweet heart where I belong. I'm remembering. Absence makes the heart go fonder, makes I wonder why. Is it needed? Absence makes the heart go fonder, makes I wonder why. And I'm so proud of you, for this is needed. I pray for faith, health, and strength to carry on. Oh, lycéens sans papier, les voisins, les voisines et le combat du réseau Éducation sans frontières. Marianne, alors des jeunes comme Abdoulaye qui viennent témoigner, hein, il y en a combien en ce moment en France? On peut les compter?
Non, nous à RESF, on ne comptabilise rien du tout en fait.
Chaque cas est un cas voilà, particulier.
Nous, on est contre les chiffres et la politique du chiffre, mais ils sont quelques milliers à peine. Ce n'est pas un gros problème.
Mais que,
par contre, humainement, c'est terrible.
Chaque cas, effectivement, voilà. Vit ça douloureusement. Mmh. Alors, il y a Thierno, par exemple, de Conakry ou Bachir de Khartoum, qui dit, mais l'État français, est-ce que l'État a l'intention de trouver une solution pour résoudre ce problème? Pourquoi ne pas donner les papiers tout de suite en arrivant? Ça éviterait de compliquer tout ça. Vous avez votre avis, Mahamadou, sur la question?
Enfin, l'État français, je crois que... ils n'assument pas ses responsabilités. Moi, j'ai toujours dit, en faisant mes manifestations, en prenant la parole chaque fois pour les jeunes, j'ai dit tout le temps parce que ça se complique de plus en plus pour les jeunes parce qu'ils voient que ces jeunes, ils viennent pour gagner leur vie, mais ils ne veulent pas. Puisque, je ne sais pas, c'est des étrangers, peut-être c'est pour ça, ils leur bloquent la vie. C'est tout simplement ça pour moi. Parce que je me rappelle quand j'étais arrivé, c'était compliqué, bien sûr, les papiers. Mais depuis le gouvernement Hollande, les circulaires de Valls, ça a mis les jeunes à côté complètement. Hein. Franchement, il faut le dire. Même si ça a favorisé les familles à les régulariser, mais les jeunes, ça les a mis complètement à côté. Ça veut dire qu'il faut arriver avant 16 ans. Un jeune qui arrive avant 16 ans tout seul, c'est pas facile. Et être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, qui est l'ASE, et surtout l'aide sociale à l'enfance qui met tous les jours les jeunes à la porte, comme quoi ils ont 30 ans même ou 40 ans, c'est quelque chose de malade.
Donc effectivement, il faut passer par tout ce circuit complètement alambiqué, douloureux, tortueux, alors qu'au bout du compte, on sait en fait, Marianne, que tous les jeunes seront régularisés en fait.
Mais oui,
on peut dire
au bout d'une longue, quand même, d'un long parcours. Hein. Ouais. Le parcours est long. Mamadou,
moi, c'est.
Bah, vous êtes parrain aujourd'hui, donc, ouais. Parce que vous avez galéré aussi. Combien de temps alors pour obtenir vos papiers hein?
Pour obtenir les papiers, quasiment 4 ans et demi, hein, pour dire que ça a été long et je n'ai pas le même parcours comme lui. Comme il vient d'expliquer, je suis arrivé, j'avais 17 ans et puis...
Vous arrivez de quel pays?
Je suis arrivé du Mali, Bamako, voilà. Et c'était extrêmement compliqué puisque j'étais au foyer et puis il n'y a personne pour t'aider. Tu n'es pas bien orienté. Il faut tous les jours chercher des solutions. Il y a la peur au ventre, effectivement, aussi d'être expulsé, puisque quand on a connu le réseau Éducation sans frontières, bien sûr, il y a des jeunes qu'on connaissait qui ont été expulsés, il faut le dire. Quand même, quand on les rencontrait dans les manifs ou dans des rassemblements pour les sans-papiers, qui ont été arrêtés plusieurs fois aussi, être en centre de rétention. Donc forcément, toi, tu connais ces jeunes qui sont dans la même situation que toi, qui se font arrêter alors que tu les vois. Ça donne la peur au ventre, vraiment. Mmh. Et malgré tout ça, on s'est dit, on va à l'école quand même s'il y a ces conditions, pour pouvoir vivre comme tout le monde et avoir un avenir meilleur. Quoi. Mmh. Voilà.
Alors, vous restez avec nous, hein, Mahamadou, donc, qui arrive du Mali et qui travaille maintenant, après avoir passé un bac, un BTS.
Enfin, je ne travaille pas complètement, je suis en alternance. Je dis quand même, je précise quand même, même si je suis considéré comme salarié aujourd'hui, je suis en alternance. J'ai fait un CAP en plomberie, installation sanitaire. Mmh. Après, je me suis lancé sur une mention complémentaire d'une année de spécialisation sur les équipements thermiques aussi individuels.
Et ben, vous restez avec nous, hein, avec voilà. Abdoulaye aussi, lycéen qui va rentrer en BTS, et Marianne du réseau Éducation sans frontières. Quel avenir pour ces lycéens sans papier? On se retrouve dans 3 minutes avec le Flash, avec vos questions 33 1 84 22 71 71 et vos messages sur Facebook.
Et si le temps d'un été?
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez, les voisins, les voisines. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il prend de l'ampleur. Le renvoi de lycéens sans papier, c'était un phénomène sporadique hein, contre lequel se battaient tant bien que mal les enseignants, les copains, les parents d'élèves. Eh bien, ce phénomène augmente avec des reconduites à la frontière, la brutalité aussi des décisions qui séparent des familles et qui font basculer la vie des jeunes. Quel avenir donc pour les collégiens, les lycéens aussi sans papier qui craignent ces expulsions? Comment s'organise la mobilisation? Vos messages au 33 1 84 22 71 71 et continuez de communiquer sur Facebook. Nous sommes avec le réseau Éducation sans frontières, donc qui aide ces jeunes. Avec vous, Marianne Cabaret-Rossi, donc vous faites partie des militants. Hein. Vous êtes professeure d'histoire géo à Paris. Alors la particularité de ce réseau, il n'y a pas de chef, hein, c'est tout le monde.
Ouais, c'est un réseau, c'est un réseau. Ouais. C'est un réseau en fait qui s'appuie sur les établissements scolaires qui sont les lieux en fait des mobilisations, c'est-à-dire là où on trouve, alors dans les écoles, les familles et après plus précisément dans les lycées, là où on trouve les jeunes sans papiers, que s'organise autour d'eux, on va dire un accompagnement, qui est un accompagnement d'abord... pour la régularisation, c'est-à-dire l'aide à la constitution de leurs dossiers, et puis les mobilisations en cas d'arrestation, de rétention, comme on l'avait vu il y a 2 ans et demi au moment de l'expulsion de Khatchik, par exemple, de Khatchik, pardon.
En tout cas, vous êtes là et vous accompagnez donc Abdoulaye aussi, qui est avec nous, jeune Sénégalais, lycéen sans papier, donc qui fait partie du réseau Éducation sans frontières, et également des parrains qui sont dans le mouvement et qui aident aussi les jeunes comme vous, Mahamadou Tounkara. Merci d'être là avec nous pour témoigner. Alors, c'est vrai, vous le disiez, vous organisez des manifestations à Paris avec des lycéens sans papier. C'est comme ça, d'ailleurs, que vous avez rencontré hein, devant l'hôtel de ville à Paris. Vous interpellez les passants donc, pour expliquer le sort de ces lycéens. De raconter, parce que ça ne fait pas la une de la presse. Hein, vous êtes vraiment là sur le terrain à expliquer aux gens. Et vous êtes aussi, là on va vous retrouver, Marianne Cabaret-Rossi, au centre de réception des étrangers de l'avenue du Maine, hein, dans le 14e arrondissement parisien. Et vous êtes là le matin pour accompagner ces jeunes lycéens dans leur première demande de titre de séjour. C'était vendredi dernier à 8h du matin, devant l'antenne donc, de la préfecture de police. Mais il y a déjà foule, et c'est notre reporter Alice Milo qui vous y retrouve.
Pour les premières demandes, il ne restera que 10 places, 10 personnes, d'accord ? On prévient tout de suite pour pas tout à l'heure que ça crie.
Là, vous rejoignez directement des lycéens ?
Oui, je vais voir en fait quels sont à la fois les jeunes et les familles qui se trouvent dans la file d'attente, je pense, depuis un long moment. Vous êtes arrivé à quelle heure, vous ?
Minuit.
Donc là, pour le moment, il y a à peu près une cinquantaine, soixantaine de personnes devant. C'est à chaque fois comme ça ?
Oui, moi, je suis venue la semaine dernière, par exemple. Il y avait au moins 70 personnes et ils n'ont pris que les 50 premières demandes de rendez-vous. Et il y a des gens qui étaient arrivés à 6h du matin et qui étaient obligés de repartir. Hein. Il y avait des gens en pleurs parce qu'ils avaient attendu longtemps. Même il y avait une famille là avec des enfants. Voilà, ils ne sont pas passés. Donc là, en plus, je sais qu'il n'y a que 3 guichets ouverts, dont un guichet avec un stagiaire, parce qu'ils nous l'ont dit la semaine dernière.
Donc vous, pourquoi vous êtes là ce matin en fait ?
Non, moi je suis là ce matin parce qu'on fait justement, on appelle ça un creux groupé, et on accompagne donc des jeunes lycéens qui ont atteint l'âge de 18 ans. Donc entre 18 et 19 ans, ils doivent faire leur première demande de titre pour être dans les règles. Donc on les accompagne régulièrement pour qu'ils puissent demander un rendez-vous.
Ça, en quoi le fait que vous soyez là, ça va être plus facile pour eux aujourd'hui ?
Mais l'idée, c'est que parfois au guichet de la préfecture, ça ne se passe pas toujours très très bien. Et le fait de venir grouper pour RESF, ça permet aussi de dire au guichet, voilà, ça c'est pas possible, vous devez prendre ce jeune, lui donner un rendez-vous. Ça permet d'être plus efficace.
Et quand ça se passe mal, c'est pour quelle raison ?
Ça peut arriver qu'un jeune se présente et qu'il n'ait qu'une attestation de passeport, par exemple. Il est arrivé à des jeunes, en fait, de se faire refuser du guichet pour ce genre de choses. Donc, quand ils sont accompagnés, voilà, c'est, on va dire, on peut insister sur les règles. Ils sont là depuis minuit, c'est important d'être là pour faire le lien avec eux.
On va les chercher, alors ?
Oui, on va les chercher.
Ah, OK.
Est-ce qu'il y a des gens qui viennent avec RESF ?
Ouais.
Ah, RESF ? Ouais.
Traoré Bakary.
Alors, Traoré Bakary, tu viens de quel établissement ?
Marcel Després.
Marcel Després, ok. Ah, merci, je vais vous rejoindre après. Là.
Moi, je suis venu ici vers 3h du matin.
D'accord. Ouais. Et vous, vous avez quel âge ?
Ben, maintenant, je suis 18 ans, en fait.
18 ans, d'accord. Ouais. Et ça fait combien de temps que vous êtes en France ?
4 ans.
Vous êtes au lycée ?
Ouais, je suis au lycée.
En quelle classe, là ?
L'année prochaine, je devrais faire un apprentissage avec un patron. Je suis en train de faire le CAP.
D'accord.
Ouais.
Vous vous débrouillez comment administrativement, alors, depuis 4 ans ?
Je fais plusieurs démarches au niveau du tribunal pour aller voir le juge des enfants. J'ai eu la chance, le juge m'a pris en charge. Celui qui me loge, c'est à l'hôtel. Celui qui paye tout ça, là, je suis scolarisé aussi, ça va, quoi.
Vous êtes venu sans vos parents ?
Ouais, je suis tout seul, hein. Ouais.
Et donc, du coup, c'est l'aide sociale à l'enfance qui s'est occupée de vous, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce qui se passe pour vous s'il refuse votre demande ?
Ah non, ça va me faire mal. Parce que j'ai tellement fatigué, j'ai fait plusieurs efforts pour ça. Ben voilà, si je vois qu'ils vont refuser de me donner ça, ça va me faire très mal au corps. Voilà.
Monsieur, avec la dame, monsieur la chemise orange.
Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui ?
Alors en fait, je suis marraine d'un jeune sans papier. Et donc je l'accompagne aujourd'hui pour qu'il dépose son dossier, pour pouvoir avoir une convocation et espérer avoir une carte d'étudiant, voilà, et qu'il soit en règle.
Ça fait longtemps que vous suivez ce jeune ?
Ça va faire un an et demi. Voilà, donc il est scolarisé dans un lycée parisien, il est en CAP, voilà, il est très bon élève et il n'a qu'une envie, c'est de voilà, faire sa vie ici, quoi. Voilà.
Il vient d'où ?
Il vient du Mali.
Pourquoi vous vous êtes engagée, vous, dans cette démarche ?
Alors en fait, je suis proviseur d'un lycée, moi-même, et en fait, dans mon lycée, il y avait beaucoup de jeunes sans papier. Et donc, je ne voulais pas parrainer des jeunes de mon lycée parce que c'était un petit peu compliqué. Je ne voulais pas qu'ils se sentent stigmatisés ou voilà, chouchoutés par rapport aux autres. Donc, j'ai parrainé un jeune d'un autre établissement scolaire, quoi.
Et vous, justement, en tant que chef d'établissement, est-ce que vous voyez vraiment les difficultés auxquelles ces jeunes-là, en particulier, sont confrontés par rapport aux autres élèves qui n'ont pas ces problématiques administratives ?
Bah, je pense qu'ils ont vraiment des responsabilités presque d'adultes. Enfin, ils ont pas d'enfance ni d'adolescence. Ils sont vraiment... confrontés à des démarches qui sont franchement pas de... Enfin, après avoir vécu souvent enfin, avoir quitté leur pays pour des raisons quand même tragiques, ils sont encore confrontés à des difficultés ici. Donc, non, je pense qu'ils vraiment, ils méritent autre chose. Surtout, c'est souvent de très bons élèves qui aspirent vraiment à réussir, quoi. L'école, pour eux, c'est vraiment important. Réussir, c'est important. Ils savent que c'est quand même la clé de tout, quoi.
Comment vous arrivez-vous à les repérer dans votre établissement scolaire ?
Alors, ce qu'on fait, c'est souvent, ben, RESF passe, fait de la formation... On affiche et donc après, quand ils sont en confiance, ils viennent nous parler. Voilà. Et après, bon, bah, on trouve des parrains à l'intérieur des établissements pour les aider dans leur démarche.
Voilà. En tout cas, c'est stressant.
Un peu. C'est un peu stressant, oui. C'est vrai que là, deux fois qu'il faisait la queue, il n'avait rien eu. Et là, je suis contente qu'il soit rentré, en tout cas. Voilà, je vais l'accompagner.
Bonne chance, alors.
Merci.
Effectivement, on sent cette tension hein, pendant que vous faites le pied de grue dans cette queue. Hein, donc, vous êtes là, Marianne Cabaret-Rossi. Quel est l'enjeu vraiment pour vous à ce moment-là hein ?
Ben, l'enjeu, c'est avant tout l'accompagnement collectif, en fait. C'est l'idée du collectif.
Qu'ils ne sont pas seuls.
Ils ne sont pas seuls, c'est important. Hein, parce que, je vous ai dit, on les appelle ces jeunes non accompagnés, quoi. Et nous, notre accompagnement, effectivement, il est avant tout celui de la constitution des dossiers. L'objectif, c'est la régularisation. Mais c'est vrai que ce sont des moments où on peut discuter. Ils peuvent se rencontrer, se retrouver les uns avec les autres. On peut rencontrer les parrains et les marraines, comme on le fait à d'autres occasions, par exemple pour les pique-niques solidaires. Mais c'est un moment de lien qui est très important aussi.
Mamadou, vous avez fait cette queue longtemps pour avoir
oui,
rendez-vous,
moi,
pour avoir les papiers, des souvenirs ?
J'ai fait cette queue deux fois. Première fois, je l'ai fait, c'était un dépôt collectif. C'était sous Sarkozy. Donc du coup, on prenait tous les dossiers. Il y avait un ou deux jeunes qui rentraient avec eux à la cité. Et ils nous ont dit, comme c'était la fin de la mandature de Sarkozy, bien sûr, ils nous ont dit non, ils ont convoqué deux, trois personnes sur une centaine de dossiers, on va dire. Hein, et ils ont dit, ouais, c'est le nouveau gouvernement, il faut refaire un dossier. Donc du coup, on est obligé de reprendre tout à zéro. Et moi, je suis reparti encore au centre de réception des étrangers à Vénitmen. Depuis premier métro, hein, 5 heures du matin, et puis il fait froid, et puis vraiment, c'est dur.
Demande beaucoup d'acharnement. Et tout au départ, Abdoulaye, il y avait cette question, à quel moment vous avez osé dire dans le lycée où vous étiez, à vos profs, à vos collègues, que vous n'aviez pas de papier ?
En fait, je ne l'ai jamais dit. Parce que quand je suis arrivé dans ce lycée-là, J'avais pas les papiers, mais j'en avais pas, j'ai pas parlé avec, avec les professeurs, je l'ai pas dit à personne. Et j'ai fait les démarches tout seul. Tout seul, en cherchant des informations de gauche à droite, de voir certaines associations, les permanences des avocats, tout ça, pour demander des informations. Et quand j'ai eu toutes les informations qui vont me servir pour faire les démarches, j'ai fait tout seul les démarches. Et j'ai fait la demande de titre de séjour d'étudiant tout seul. L'école a assis ma situation grâce au celui qui m'a le conseiller, le CIO, le directeur du CIO du premier et deuxième, troisième arrondissement, parce que c'est lui qui me suivait toujours. Et quand je me suis trouvé dans un problème un peu délicat, il m'a proposé d'en parler avec mon proviseur. Après, en premier temps, je n'avais pas accepté parce que moi, je suis habitué, comme on est toujours tout seul, on est habitué à être tout seul, à faire tout seul.
Donc, vous n'osiez pas, en fait, parler de votre situation à vos camarades, aux profs.
Ni les amis, ni les amis tout près. Je ne parle à personne.
Vous gardiez ça pour vous
Je cherche toujours. Mais avec lui, j'arrivais à le parler et m'écouter. Après, à la fin, je lui ai donné l'autorisation d'en parler avec mon proviseur. C'est à ce moment-là qu'on suit ma situation.
Ouais. Alors, effectivement, merci de nous ouvrir effectivement votre témoignage, parce que ça donne aussi l'envie à Mamadou, qui nous appelle de Paris et qui a suivi un peu peut-être votre même parcours. Bonjour Mamadou, on vous écoute.
Allô, oui, bonjour Sandrine, bonjour à tous les auditeurs de RFI. Et en fait, moi ici, voilà, donc je m'appelle Mamadou, je suis arrivé en France en 2005. Dans les mêmes difficultés que mon homonyme ici, Mamadou. Et en fait, des galères, etc. Mais bon, moi, la chance que j'ai eue, c'est que je suis arrivé, j'avais 16 ans, je suis tombé dans un foyer de mineurs isolés, etc., l'ASE, etc. Mais j'ai eu cette chance de tomber sur des éducateurs qui étaient formidables. Et comme je dis, je ne les remercierai jamais assez.
Et alors, donc, aujourd'hui, Mamadou, quelle est votre situation?
Moi, aujourd'hui, ma situation, en fait, j'ai une stabilité, je travaille. Voilà, donc j'essaye de mener mon petit bout de chemin, etc.
Et vous êtes passé aussi par le réseau Éducation sans frontières?
Non. Moi, je suis passé par l'ASE. Et après, j'ai fait, comme on appelle, je suis passé par l'OFRA, qui était plus dur. Parce que là, il a fallu que j'explique pourquoi, etc. J'étais en France, etc. La situation politique de mon pays, etc.
Donc, c'est par l'Office des réfugiés. Hein.
Voilà, ouais. Ça c'était compliqué. Donc, il a fallu tout vraiment refaire sortir, etc. Et travailler dessus. Parce que là-bas, ils sont vraiment minutieux. Ils vont vérifier, etc. Donc, il faut raconter ce qui s'est vraiment passé. Et par rapport à cela, donc, j'ai aussi obtenu mon statut de réfugié. Et par la suite, je fais ma demande de naturalisation. Je fais un CAP, etc., que j'ai obtenu. Et que maintenant, au jour d'aujourd'hui, je travaille. Donc, lorsque j'entends ici les jeunes mineurs isolés que je vois, automatiquement, je replonge là-dedans. Quoi, parce que je me dis qu'il y a eu 9 ans de cela ou 10 ans de cela, j'étais à la même place, les mêmes galères. Et lorsque vous allez à la préfecture, on ne considère pas, etc. C'est-à-dire, on a l'impression que vous êtes...
Oui, alors la ligne se détériore. Merci beaucoup, hein, Mamadou, pour votre témoignage. Alors, ça donne effectivement de l'espoir. Hein. Vous avez effectivement construit votre vie ici. Est-ce que, au pays, je dirais par exemple au Mali ou au Sénégal, est-ce que votre famille sait par quoi vous êtes passé, Mamadou, toutes ces difficultés?
Moi, ma famille le sait. Parce que j'ai
pas... À Bamako.
Voilà, à Bamako, ma famille le sait parce que j'ai été à Bamako l'année dernière tout près.
Ils vous ont cru, vous leur avez raconté toutes vos galères.
Qui croient ou pas, je les ai montré des films parce que moi, j'ai fait un documentaire sur ma vie en France avec un monsieur qui s'appelle Teva. Teva qui voulait faire un film sur moi par rapport à mon parcours qu'il appréciait beaucoup avec tout... Parce que il faut le dire quand même, je suis un militant du réseau Éducation sans frontières, très motivé partout. Donc, cette film, j'ai montré à ma famille déjà pour montrer la galère que j'ai subie dans mon parcours, comme quoi aussi j'ai fait 4 ans sans boulot et 4 ans avec Bien sûr, bien entouré, même si je me suis fait un réseau avec tous les gens du réseau Éducation sans frontières. Mais ça a été un combat de 4 ans. Donc, mon père, avant de partir au pays, il ne me croyait pas. Parce que pour lui, être en France, on est riche, on a beaucoup d'argent, on travaille, on a beaucoup de sous. Donc, il n'avait pas bien compris les choses. Mais quand je suis arrivé, je l'ai expliqué. Et puis voilà, et puis j'ai montré les films à la famille. Et il y a beaucoup qui
et là, ont ils ont apprécié. Reconnu, effectivement, voilà, tout reconnu ce que vous aviez traversé voilà. en étant en France. Voilà. Et vous, Abdoulaye, votre famille, elle est où aujourd'hui?
Ma mère, elle est au Sénégal. Et mon père, il est en Italie. Ils ne sont plus ensemble, du coup, ils sont séparés.
Et comment vous êtes arrivé jusqu'en France ou comment vous avez quitté le Sénégal?
J'ai quitté le Sénégal en 2009. Et je suis arrivé en France en 2014. Et en Italie, je vivais avec mon père et sa femme.
Mais ça ne se passait pas bien.
Ça ne se passait pas très bien. Du coup, je suis arrivé en France.
Et ta mère, elle est au courant de tout ce que tu as traversé, de les difficultés dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui?
Oui, mais pas tout. Pas tout. Parce que pour elle, je suis toujours l'enfant qu'il a quitté quand il était petit. Parce que je suis quitté là-bas à l'âge de 13 ans, 14 ans. Du coup, j'invite de le parler, ce que je vis. Parce que ça peut le faire un peu mal. Parce qu'elle, elle me voit toujours l'œil de l'enfant qui a quitté au Sénégal à l'âge de 14 ans. Du coup, surtout la distance, le fait de savoir que vous avez des difficultés, vous ne vivez pas bien, ça peut le faire du mal. Du coup, je préfère de toujours être positif envers elle et garder un peu l'espoir qu'un jour ça va y aller.
Alors, à propos d'espoir, Marianne.
Ouais, d'espoir, moi, si je regarde moi, les dix années d'action, du militantisme, tout ça, de rencontres. Je pourrais citer Mamadou, qui, au bout d'un long parcours, est devenu français, que tu connais d'ailleurs, Mamadou, qui est parti faire ses études à Beyrouth aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a de beaux parcours, mais moi, je me pose la question, pourquoi on fait endurer à ces jeunes, puisqu'il n'y a pas de loi? Ils sont dans un entre-deux. La loi, il n'y a rien qui est prévu pour eux. Pourquoi on leur fait subir? C'est des violences, quoi. C'est une violence très forte, quoi. De ne pas pouvoir travailler, de ne pas exister, quoi, dans cette société. Et moi, mon combat, il est politique avant tout. Et RESF, c'est un combat politique qu'on mène. Mais évidemment qu'au quotidien, quand on est prof dans un lycée, quand on est parent d'élève, on est obligé de se battre pour un cas particulier, il faut se mobiliser. Et que c'est vrai qu'on a été déçus par les promesses qui avaient été faites de François Hollande sur la jeunesse. Et que cette jeunesse-là, elle a les mêmes droits que la jeunesse française. Quoi.
Alors, il y a beaucoup de questions qui arrivent aussi vraiment sur votre quotidien quand on n'a pas de papier. Il y a Brahima, par exemple, de Bobo Diolasso, qui demande « Mais comment on fait pour passer un examen lorsqu'on n'a pas de papier ?» Ça doit être quand même compliqué. Comment vous avez fait, Abdoulaye, pour passer le bac alors?
Il suffit juste d'avoir le passeport ou d'avoir un document où il y a le nom, prénom, photo pour qu'on puisse vous reconnaître.
Donc ça suffit pour passer un examen?
Ouais, ça suffit. Moi, j'ai fait 3 examens. J'ai toujours fait avec une pièce d'identité, avec photo. Voilà,
et pour trouver un employeur, par exemple, pour passer, vous êtes en alternance ou vous allez chercher, vous cherchez une entreprise. Comment on fait quand on n'a pas de papier alors?
C'est pas très facile. Moi, comme j'ai eu de la chance, que j'ai une carte séjour d'étudiant, ça peut être un peu un avantage, mais c'est pas, même avec ça, c'est pas facile. Même avec ça, c'est pas facile. Parce que y a aussi, comment je pourrais l'expliquer, les employés n'ont pas souvent la confiance. C'est-à-dire, s'ils voient que vous avez une carte séjour d'étudiant, ils ont peur, ils vont dire, mais il ne peut pas travailler en temps plein. Ils ne se posent pas la question que peut-être si je le fais le contrat, ils peuvent changer la carte séjour. Du coup, ils ont toujours peur. Ils te considèrent comme un sans-papier aussi.
Oui, donc ils sont méfiants. Ça ne vous facilite pas du tout, effectivement, le fait de pouvoir rentrer dans cette vie active. Maintenant, vous avez votre bac avec mention bien. Quand même, vous cherchez un employeur. Donc, l'avenir est bon quand même. En tout cas, je vous souhaite vraiment tout plein de bonnes choses pour les années à venir en France. Vous avez déjà montré beaucoup de persévérance et beaucoup de de courage. Donc vraiment, bravo, bonne chance pour la suite. Merci d'avoir pointé du doigt ces problèmes de ces jeunes lycéens sans papier, Marianne Cabaret-Rossi. Merci d'avoir été avec nous au nom du réseau Éducation sans frontières. Abdoulaye Thiam, donc jeune Sénégalais qui fait partie du réseau. Et Mahamadou Tunkara, merci d'avoir pris votre heure du déjeuner pour venir dans l'émission. Toutes les infos sur Éducation sans frontières avec un S.org.
How long do you plan on staying in America?
Señor, ¿cuánto tiempo va a estar aquí?
What?
Vacances.
Holiday.
Yeah, we have a passport. We have some questions. Abarabu, don't you see me? Abarabu, don't you bury me? Abarabu, don't you bury me? Music na ma passport. Music na ma passport. Music na ma passport. Na music na ma passport. Atana mali manyere day. Ima torina da fangima. Atana mali mangarili. Ima torina da fangima. Atana mali man wali day. Ima torina da fangima. Atana mali man febi. Music na ma passport. Music na ma passport. Na music na ma passport.
Alors on finit avec une question à propos des bourses d'études, parce que vous êtes nombreux à nous demander de l'aide effectivement pour trouver ces bourses d'études en Afrique, et c'est pourquoi nous accueillons aujourd'hui Sinatou Saka en studio. Bonjour Sinatou.
Bonjour Sandrine.
Alors vous êtes journaliste et vous fouillez la toile pour informer les étudiants, et aujourd'hui vous parlez des bourses de Master 2 et de doctorat qui sont offertes aux étudiants africains par le service des échanges universitaires allemands et l'Institut sénégalais de recherche agricole. C'est donc l'ISRA à Dakar.
Oui, depuis 2002, le service des échanges universitaires allemands, la DAD, et l'Institut sénégalais de recherche agricole offrent donc au moins 3 bourses de master et 2 bourses de thèse par an. Donc 2 conditions, avoir une mention assez bien en master 1 ou un diplôme d'ingénieur agronome et avoir moins de 36 ans. Donc l'institut en question qui donne la bourse est chargé de former de jeunes scientifiques africains aux techniques pour l'adaptation des plantes à la sécheresse. Attention, les Sénégalais ne sont pas concernés par cette bourse. L'objectif est de favoriser la mobilité régionale en Afrique.
Alors, quel est le montant de la bourse, Sinatou ?
Alors, la bourse de doctorat s'élève à 250 000 francs CFA, soit 381 euros par mois pour les 3 ans de thèse, et 190 000 francs CFA, soit 289 euros par mois pour les Master 2 pendant 15 mois. Sont aussi pris en charge les billets d'avion, une couverture médicale, les frais d'inscription et les frais liés à la formation.
Alors, quels sont les domaines concernés par cette bourse ?
L'agronomie, la bioclimatologie, la physiologie, la biochimie, la génétique moléculaire et la sélection et modélisation des cultures.
Alors, comment on fait pour postuler ?
Pour postuler, vous devez constituer un dossier composé des pièces de base, donc le formulaire à remplir, un curriculum vitae très clair, le diplôme du bac, vos relevés de notes et diplômes du cursus universitaire, 2 lettres de recommandation universitaire, plus une lettre de motivation, donc indiquant très clairement surtout la formation du master souhaité.
Et alors, quel conseil pouvez-vous donner aux candidats à cette bourse ?
J'ai interrogé Daniel Fonseca, donc chercheur au programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Pour lui, une mention assez bien dans le cycle universitaire suivi. La qualité et la faisabilité du projet scientifique pour les doctorants est déterminante. Le jury sera aussi sensible aux candidatures issues de pays avec un système universitaire peu performant comme le Tchad ou la République centrafricaine. Et membre du jury de la sélection, donc Daniel Fonseca nous a aussi confié que les candidatures féminines sont vivement encouragées.
Allez les filles, allez-y.
Vas-y, n'hésitez donc pas. J'ai aussi discuté avec Amidou Falalou, ancien boursier et actuellement enseignant-chercheur à l'université de Niamey. Pour décrocher cette bourse, selon lui, il faut définir un projet de thèse qui répond vraiment aux besoins du terrain.
Ça semble évident. Mais alors, quelle est la date limite ?
Les voisins, vous avez jusqu'au 15 septembre à 17h, heure de Dakar, pour déposer votre candidature. Donc, toutes les infos sont à retrouver sur le site rfi.fr, page 7 milliards de voisins.
Donc, la page de 7 milliards de voisins pour toutes ces infos sur la bourse. Et vous reviendrez peut-être au courant de l'été, s'il y a d'autres informations à donner, effectivement.
Exactement. Merci, Sandrine.
Merci beaucoup, Sinatou. Alors, merci à toute l'équipe hein, de Priorité de 7 milliards de voisins. Et oui, c'est vendredi. La tête un peu dans les nuages. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Camille Néran et Romain Dubrac à la réalisation. Très très bon week-end à tous. On se retrouve lundi avec une digital détox. Et oui, on arrête de se connecter pour un temps. Phénomène de mode ou enjeu économique. On attend vos questions 33 1 84 22 71 71. Et sur Facebook, racontez-nous votre lien, votre téléphone avec Facebook, avec Twitter. Si vous êtes un peu dépassé par tout ça, comment vous allez vous en sortir? Est-ce que vous êtes capable de lever un peu la pédale avec tous ces moyens de communication pour vivre mieux. Passez un très très bon week-end.
C'était 7 milliards de voisins avec le CESAG, l'institution de formation en management sous tutelle de la BCEAO.